Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est Pierre-Étienne Bourget, fondateur de la méthode de libération authentique. Vous êtes venus nombreux et vous arrivez encore. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette téléconférence sur le, les secrets de la reprogrammation de soi. Alors, je suis super joyeux de passer ce moment avec vous tous. Concernant donc le sujet de la reprogrammation de soi. Alors, installez-vous confortablement. On en a pour combien de temps est-ce qu'on en a? Difficile à dire. Entre, disons, une bonne grosse heure et plus de contenu précis, utile, utilisable, dense, qui se transpose directement en prise de conscience. Ton temps est précieux, mon temps est précieux. Je prendrai pas 50 minutes avant d'entrer dans le vif du sujet. Là, je vois qu'il y a encore tout plein de gens qui arrivent. Oui, c'est impressionnant. Alors, bienvenue à tous ceux qui arrivent à l'instant. Donc, prenez place confortablement. C'est Pierre-Étienne Bourget qui vous parle. Bienvenue à cette téléconférence sur les secrets de la reprogrammation de soi. Alors, sans plus attendre, je vais aller de l'avant dans le sujet. Il y a beaucoup d'informations à dire, c'est un sujet capital et je veux vraiment bien honorer ton temps et le mien. Alors, dans un premier temps, disons que j'ai eu plaisir à élaborer cette téléconférence qui est en fait une idée spontanée, bien spontanée, qui m'est venue hier, alors où je constatais qu'il y avait donc, un problème dans la programmation d'une de mes vidéos à travers toutes les dizaines et les dizaines de types de programmation pour tout le matériel que j'ai en ligne. Ça arrive régulièrement que je vais avoir un petit problème de ci et de ça, un rajustement. Et je me disais encore une fois, ah, problème de programmation. Ça nécessite une bonne programmation pour avoir de bons résultats. Et en même temps, à peu près dans la même période de temps, je recevais une question sur la programmation de quelqu'un qui m'écrivait, puis comme je suis relativement accessible par courriel, je reçois une quantité assez gigantesque aussi de courriels, et quelqu'un me posait une question sur la programmation, je lui répondais agréablement, et je me disais, ah, c'est un sujet important, pourquoi pas donner une téléconférence sur la programmation, ce qui donne la présente téléconférence que nous vivons à l'instant. Alors, dans cette interface web que tu vois devant toi, il y a à gauche un endroit où c'est marqué « Submit your question for the event here ». En accent européen, ça ferait « Submit your question for the event here ». À gauche. Ça, c'est un petit encadré dans lequel, si tu as quelque chose que tu veux m'écrire, tu vas dedans et tu l'écris. Au moment où je parle présentement, que je regarde, il y a déjà une quantité assez impressionnante de... Wow! Wow! Je dois défiler assez longtemps pour regarder tout ce qui a déjà été écrit. Alors... Je vais à quelques reprises dans la présente téléconférence aller là-dedans, piger et répondre à des questions. OK, que je regarde. OK, il y a déjà tout plein de choses qui sont écrites. Alors, c'est certain, comme ça va continuer à se rajouter, que je vais tout lire. Je vais tout lire ce qui va m'être écrit. Donc, si tu m'écris quelque chose, tu peux déjà savoir d'avance que franchement, sincèrement, je vais le lire, mais je ne pourrai pas répondre à tout, sinon on va être encore là demain matin. Alors, et je vais prendre durant la présente téléconférence trois périodes de questions où je vais répondre à quelques questions à chaque fois. Alors, voilà. D'entrée de jeu, si on veut le dire comme ça, disons tout de suite que, OK, les programmes. Les programmes dans notre mental, c'est important et incontournable. On ne peut pas vivre sur Terre sans avoir des programmes dans notre mental. La majorité sont inconscients. On en a une certaine quantité de programmes conscients. Et c'est essentiel. Hein, c'est essentiel pour notre survie, essentiel pour notre épanouissement, essentiel à tous les niveaux. Mais, autant que c'est essentiel d'avoir des programmes pour vivre et survivre, dans la même mesure, on ne peut pas vivre heureux ou s'épanouir pleinement sans avoir les bons programmes qui sont dans notre mental. Et bien que pour nous tous, des bons programmes, cela pourrait se classer dans des familles équivalentes, un bon ou un sain ou un naturel programme, pour moi, ça va se manifester d'une manière différente par rapport à toi ou par rapport à une autre personne. Et c'est ça qui est extrêmement important dans notre chemin d'évolution, c'est entrer en contact avec les programmes naturels, sains et puissants qui nous appartiennent vraiment. Et ça, c'est un. On va vraiment donc tourner notre attention dans ce sens-là durant la présente téléconférence. Alors, certains vont. Lorsque vient le temps de discerner qu'est-ce qu'un bon programme, certains vont juger d'un bon programme en mesurant la performance d'un programme. Est-ce que ce programme est performant? Est-ce qu'il conduit à des résultats puissants? Ou est-ce qu'il me donne les résultats souhaités? Et si tel est le cas, ils disent, voilà, un bon programme. Ah, OK, intéressant. D'autres vont juger d'un bon programme par la satisfaction personnelle qu'il donne. Est-ce que je suis satisfait de ce que me donne tel type de programme, donc tel type de croyance, donc tel type de fonctionnement. Est-ce que je suis satisfait de ce que ça me donne, oui ou non? Si je suis satisfait, voilà, c'est un bon programme. Intéressant, encore une fois. Par contre, ma vision et celle que je te partage présentement, elle est différente de ça. Il y a des nuances, des précisions à apporter concernant le fait de juger d'un bon programme par rapport à la performance du programme ou à la satisfaction qu'il me donne dans ma vie. Et je dois préciser tout de suite que, évidemment, j'apprécie et je valorise la performance et la satisfaction. Et j'aime, moi aussi, quand je performe, j'aime quand je suis satisfait des résultats que j'obtiens. Oui. Et j'aime lorsque mes clients ou ceux qui me demandent de l'aide retrouvent le chemin de la performance et de la satisfaction. Oui. Mais, je les valorise vraiment, donc cette performance et cette satisfaction, lorsqu'il découle du bonheur de vivre et d'agir dans l'unité avec notre nature profonde. C'est lorsque la performance et la satisfaction elles ont derrière elles le bonheur de vivre et d'agir dans l'unité avec qui nous sommes vraiment que, personnellement, j'offre ma considération et ma valorisation à cette performance et à cette satisfaction. Il y a, pour moi, quelque chose qui est au-delà de la performance et de la satisfaction. Cette conscience de notre nature profonde, qui, lorsqu'elle s'exprime convenablement, naturellement, puissamment, parce que, soit dit en passant, c'est très puissant. Lorsque notre nature profonde s'exprime bien, on côtoie, on fréquente sur notre chemin une forme de bonheur qui est au-delà de la performance et de la satisfaction du moment, qui se trouve même dans l'adversité ou dans les conflits, même dans la douleur aussi. Et ça, c'est la direction que je donne à cette information. Je veux te dire que je suis informé de diverses manières de reprogrammer le cerveau. J'ai eu de la formation sur les fonctionnements de l'hypnose. Je connais diverses approches de reprogrammation énergétique. Je les ai étudiées, j'ai fréquenté des gens qui sont, on pourrait dire, experts dans le domaine, oui. Et je dois te dire aussi que je respecte chaque approche, j'ai un respect pour chaque personne et je respecte chaque chemin de vie. Par contre, je dois me tenir à ma propre expérience dans tout ça. Je dois me maintenir sur le terrain solide de ma propre expérience. Alors, la direction que je donne à la programmation, elle est différente. Et tu vas le découvrir tout au long de cette présente téléconférence, lorsque je vais te partager les diverses informations importantes que j'ai préparées pour toi. Tu vas voir que c'est différent de ce qui est généralement et très généralement partagé, offert et encouragé. Je suis même informé de diverses manières de manipulation, de lavage du cerveau, de reprogrammation forcée. Mon chemin m'a amené à avoir une reconnaissance, que je le dis simplement comme ça, avoir une reconnaissance de cela. Et ça, c'est quelque chose que je n'honore pas du tout, évidemment. Donc, je me tiens loin, mais très, très loin de ça. Et au final, je me tiens très loin de toute forme d'ingérence par rapport au fait de programmer moi-même quelque chose dans quelqu'un. Alors, ce que je respecte le plus dans le grand sujet de la programmation, c'est ce qui me conduit, c'est ce qui te conduit, c'est ce qui nous conduit à retrouver la programmation qui découle de qui on est vraiment. C'est ça que je respecte le plus. C'est ça que j'honore le plus. C'est ça que j'encourage le plus. Et c'est ça que je mets de l'avant. C'est ce qui conduit à retrouver la programmation qui découle de qui on est vraiment. Qui on est profondément. Qui on est naturellement. Qui on est intensément. Qui on est auto-activement. Qui on est consciemment. Alors, c'est ça mon focus. C'est ça que je souhaite ou je choisis d'apporter. Donc, c'est ma vision. Alors, c'est pourquoi c'est le sens particulier que je donne à cette présente téléconférence. Elle est différente de ce que tu as très probablement déjà entendu concernant la reprogrammation de soi. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, j'oubliais de le préciser, bien que je l'ai écrit quelquefois, dans l'annonce de la présente téléconférence, tu apprécieras probablement avoir un papier et un crayon. Parce que je vais te divulguer plusieurs informations spécifiques que je vais m'efforcer de bien prononcer et de répéter si tu souhaites les noter. Et d'un certain sens, je t'encourage à en prendre des notes écrites parce que lorsque tu prends une note écrite, tu... d'un certain sens, tu apprivoises ou tu côtoies plus intimement cette information. Donc, tu l'approches d'autant plus de ton expérience personnelle et tu te positionnes de telle manière que, par rapport à cette information, tu puisses soupeser si elle te rejoint vraiment, si elle résonne dans ton expérience personnelle. En l'ayant écrit, tu peux y revenir, tu peux la revisiter. Peut l'éveiller à nouveau en toi. Alors, je t'encourage à avoir feuille et crayon et à noter. Alors, comment est-ce que j'ai commencé à fréquenter, consciemment tout au moins, le sujet de la reprogrammation? Dans un premier temps, il faut évidemment concevoir le fait qu'on n'a jamais cessé notre programmation, tu sais. On a vécu divers événements qui, plus ou moins consciemment, nous ont fait tirer des conclusions, donc adopter diverses croyances fondamentales qui, ensuite, donc, se sont révélées plus ou moins consciemment, encore une fois, en pensée, qui se sont transposées, donc, en réactions diverses, en émotions, en satisfaction ou en insatisfaction et en action, bon, etc. au fur et à mesure qu'on a vécu des expériences de vie, on n'est jamais vraiment sorti du fait de tirer des conclusions, d'adopter ou de rejeter tel type ou tel type de croyance. Donc, on a toujours entretenu une relation intime avec la programmation de soi-même, plus ou moins consciemment. Le plus on en a été inconscient, le plus ça s'est fait automatiquement, le moins il y avait de discernement dans tout ça, le moins c'était à propos, le plus c'était erroné. Le plus on a été vigilant, le plus on a été en éveil, le plus on a fait attention à ce qu'on laissait entrer dans la famille spécifique de ce à quoi nous croyons fermement. Donc, le plus on a été vigilant par rapport à ça, le plus ça s'est fait avec conscience et ça s'est bien fait au final. Alors, mon histoire est semblable. Je n'ai jamais cessé d'avoir une relation avec la reprogrammation. Mais lorsque j'ai commencé à vraiment choisir le fait que consciemment, je voulais amener ma vie à un autre niveau, que je voulais prendre de la distance par rapport à la souffrance dans ma vie, que je voulais changer ce qui avait besoin d'être changé pour que je vive différemment, j'obtienne des résultats différents, ma conscience soit différente, j'ai commencé à me plonger dans mes mémoires anciennes. Mes mémoires profondes et profondément occultées. Et j'ai retrouvé plein d'événements inconscients qui jusqu'alors m'étaient demeurés inconscients, devrais-je dire, et qui avaient été vraiment marquants dans mon évolution, marquants dans mon existence. Et des moments desquels découlaient des conclusions, donc des croyances spécifiques, qui étaient pour moi des programmes très profonds. Des programmes tellement profonds qu'il y avait cette capacité de se perpétuer à travers l'espace et le temps, hein, qui me suivait jusqu'alors, bref. Alors, j'ai réalisé que conscientiser, c'est vraiment un prérequis pour pouvoir libérer consciemment. Donc, c'est absolument logique ce que je viens de dire. Hein. J'ai réalisé que, OK, pour que je puisse faire quelque chose avec une information, encore fallait-il que je la conscientise. Super! Donc, OK, j'avais commencé à explorer comment conscientiser des informations. Mais ensuite, je me suis trouvé pris avec de nouveaux éléments, hein, qui m'oppressait. Je découvrais des programmes que j'avais en dedans de moi qui étaient erronés, mais j'étais pris avec ces programmes. Et ça m'oppressait de manière encore plus vive parce que j'avais fait ressortir des informations qui étaient dans mon inconscient. Alors là, elles étaient maintenant dans mon conscient, mais alors là, elles m'oppressaient consciemment. Hein? J'avais vraiment, dans mon regard intérieur, deux fausses programmations. Mais j'avais pas encore assez cheminé pour réaliser le fait que, ah, OK, je peux les libérer. Alors, au début, j'ai passé vraiment des semaines assez chaotiques. Je dirais des semaines assez chaotiques après chaque prise de conscience profonde parce que j'avais pas vraiment encore conscientisé comment les libérer pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, pour retrouver le chemin vers qui je suis au-delà même de mes mémoires profondes. Ah! Parce que juste conscientiser, c'est pas une finalité. Encore faut-il pouvoir donner une fluidité, hein, à cette prise de conscience. Parce que si une prise de conscience vient et occupe tout l'espace mental, on est inondé par elle. Alors, ça a été un chemin assez intéressant, au final, un chemin de conscience pour apprendre à libérer ce que je retenais. Pour découvrir donc mes programmations naturelles qui étaient cachées derrière certaines puissantes programmations qui continuaient donc de me suivre, qui étaient des programmations erronées. Et c'est, soit dit en passant, évidemment, un chemin qui se continue, c'est un chemin permanent qui se continue encore aujourd'hui, puisque les prises de conscience, c'est quelque chose qui vient et vient encore, et les possibilités donc de libérer et de cheminer en conscience avec tout ça, c'est quelque chose de continu. Alors, ça c'était juste pour te donner un petit peu peu là, mon chemin de vie par rapport à ça. Maintenant, entrons donc dans les 10 mythes et croyances populaires concernant la reprogrammation. Je vais te les dire une à une, je vais les répéter, tu pourras les noter si tu veux. Mais dans tous les cas, l'important, c'est que tu les amènes dans ton expérience personnelle et que tu te poses simplement la question, ah ok, comment est-ce que ça se positionne en dedans de moi, ça? Tu sais, je te donne de l'information ici ou dans d'autres vidéos, peu importe où, ok, dans la méthode de libération authentique, dans les diverses approches que j'ai, peu importe, je donne des informations. Ce que je veux au final, c'est que tu mesures cette information dans ton expérience personnelle pour que tu aies pour toi-même. Tu décides, est-ce que ça fait du sens ou pas? Comment est-ce que ça se place en dedans de toi? C'est ça qui est important. Je veux pas que tu demeures étranger avec par rapport à cette information, que tu te dises, Pierre-Étienne dit, ou blablabla. On s'en fout de ce que Pierre-Étienne dit. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu reconnais. Alors, ce qui, dans mon expérience, représente les 10 mythes et croyances populaires concernant la reprogrammation, allons-y pour la première. Premier mythe, 1. C'est difficile ou c'est compliqué de se reprogrammer. 1. C'est difficile ou c'est compliqué de se reprogrammer. Ceci, dans mon expérience, c'est complètement faux. Okay? C'est facile et simple de se reprogrammer. C'est vraiment facile et simple de se reprogrammer. Par contre, on peut en convenir que la simplicité pour le mental qui valorise les complications peut être ardue à soutenir. Ouais! le mental qui valorise uniquement les complications, les grands schèmes de pensée, blablabla, les théories, les un tel a dit, un autre tel a dit, mais semblerait-il que... Ah! Pour le mental qui valorise juste les complications, ok, la simplicité devient difficile à supporter. Mais la reprogrammation, comme telle, dans son mécanisme intrinsèque, est simple et facile. Donc, premier mythe, que c'est difficile ou compliqué de se reprogrammer. Deuxième mythe, c'est impossible de se reprogrammer vraiment. Hein? Il y a cette programmation que j'ai jamais réussi à changer et puis qui va toujours demeurer ainsi. D'or! C'est vraiment possible de se reprogrammer. On s'est reprogrammé tout au long de notre vie d'un certain sens. Certains programmes fondamentaux, donc qui appartiennent à des croyances fondamentales, qui ont leurs racines généralement parlant, voire presque tout le temps, très bien enracinées dans l'inconscient, se sont perpétués. Mais il y a quand même eu, il faut le réaliser, cette reprogrammation constante au fur et à mesure qu'on a eu de nouvelles prises de conscience, qu'on a décidé de croire ceci ou croire cela, on a mis en place de nouveaux programmes. Alors, deuxième mythe, c'est impossible de se reprogrammer. Complètement erroné, évidemment. Troisième point, troisième mythe, on a nécessairement besoin de quelqu'un pour se reprogrammer. Donc, de quelqu'un d'extérieur à soi. Ce qui est absolument erroné, encore une fois, on a besoin de personne d'autre que de notre propre conscience. On est absolument autonome là-dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'une personne bien disposée, respectueuse, ne peut pas nous aider à conscientiser ce qu'on a à conscientiser en dedans de nous, évidemment. Mais comme tel, il n'y a pas besoin nécessairement de quelqu'un. Hein, je n'ai pas besoin, tu n'as pas besoin nécessairement de quelqu'un pour parvenir à une saine reprogrammation. Non, on est autonome là-dedans. Quatrième mythe, c'est long de se reprogrammer. Quatrième mythe, c'est long de se reprogrammer. Ce n'est pas vrai. C'est la reprogrammation est très rapide. Elle va à la vitesse de la conscience. Elle va à la vitesse du fait d'adopter ou de rejeter une croyance spécifique. C'est extrêmement rapide. Par contre, si on regarde de manière mécanique un peu, le temps que cela peut prendre pour conscientiser et libérer le cumul de toutes les croyances et les programmes qu'on a accumulé durant notre vie, oui, il peut y avoir un cumul de rapidité. Hein? Chaque reprogrammation est extrêmement rapide. Par contre, le chemin pour avoir procédé à suffisamment de reprogrammation spécifique pour qu'on en ait donc vraiment des résultats tangibles qui nous donnent déjà la conscience que notre vie est transformée, oui, ça peut nécessiter un certain délai. Mais à partir du moment qu'on se dit que c'est long, on est sur un mauvais chemin de conscience. Parce que c'est rapide. C'est extrêmement rapide. Et c'est le fait de se maintenir dans cette rapidité de la conscience qui fait que, mais voilà, on matérialise cette rapidité-là. Si on se dit que c'est long, devine qu'est-ce qu'on matérialise. On matérialise le fait que c'est long. C'est pas long, c'est rapide. Très rapide. À la vitesse d'une prise de conscience. Cinquième mythe, se reprogrammer, c'est adopter une pensée positive. Bon, dans mon expérience, lorsqu'on a procédé à suffisamment de prise de conscience, qu'on a pu libérer et qu'on a retrouvé le chemin vers qui on est vraiment, et ne t'en fais pas si tu piges pas exactement tout ce que je sous-entends par rapport à la reprogrammation, parce qu'il me reste beaucoup d'informations à te donner. Okay? Alors, lorsqu'on a retrouvé le chemin vers notre essence profonde, notre pensée est transformée. Notre pensée peut embraser, peut très bien conscientiser des aspects négatifs, des oppressions, des troubles. On n'a pas peur de regarder droit dans les yeux des perturbations ou des trucs négatifs. On n'a pas peur non plus d'en découvrir en soi-même. On n'est plus à ce niveau-là. Là. Et notre pensée devient d'autant plus constructive, puissante, consciente. Et d'un certain sens, le fait que notre pensée soit constructive, puissante, consciente, nous donne quelque chose s'apparentant au fait que notre pensée devient positive. Okay? Mais si je me dis, OK, je vais me reprogrammer en forçant cette pensée positive à me coller à la conscience. Là, au final, je suis en train de demander d'enfouir en dedans de moi tout ce qui ne correspond pas à cette pensée positive, d'occulter, de réprimer tout ce qui ne correspond pas à cette pensée positive. Et d'expérience, il y a extrêmement peu de gens pour qui cela fonctionne vraiment. Ceux pour qui ça fonctionne bien, le fait de faire ça, c'est des gens qui, à la base, étaient déjà super positifs. Là. Okay. Vraiment naturellement, qui avaient la bonne disposition de penser. Ceux qui essaient de forcer la pensée positive, waouh, ça donne souvent, pour faire une image, on n'a qu'à se représenter un visage dans lequel on voit que tous les traits du visage sont tendus, sont accablés, sont attristés. Et dans ce visage-là, on y affiche un beau grand sourire. Non. Sixième mythe. La reprogrammation se fait avec la force. Et la reprogrammation est définitive. Ce qui veut dire que je vais forcer, je vais imposer puissamment un nouveau programme, plus puissant que les anciens, qui va supplanter, dominer les anciens programmes, et ça va être fait une fois pour toutes. Bon, il y a effectivement une forme de reprogrammation qui peut s'effectuer dans le courant de la force. À divers niveaux. Et on peut penser, par exemple, à la force d'un traumatisme ou la force d'une suggestion hypnotique qui entre lorsque toutes les barrières du subconscient ont été levées, qui va s'implanter profondément dans l'inconscient et qui, d'un certain sens, sans lui conférer nécessairement et réellement un caractère définitif, est un programme qui s'est imposé de manière assez permanente. Sauf que ça, ça ne fait pas partie de la naturelle, saine et consciente reprogrammation. En fait, cette reprogrammation qui nous met d'autant plus en contact avec qui on est vraiment. C'est une reprogrammation qui nous coupe d'autant plus de qui on est vraiment. Alors, la reprogrammation avec un R majuscule et un P majuscule, celle qui nous rapproche de notre essence, ne se fait pas comme telle dans la force, et elle ne peut pas se faire une seule fois et être définitive parce qu'elle découle d'un chemin qui se maintient en éveil, qui se maintient en vigilance, qui se maintient en conscience. Septième mythe, sans hypnose, pas de reprogrammation. C'est un mythe, ok? Les chemins spécifiques de l'hypnose peuvent conduire à des reprogrammations très puissantes, certes, mais disons que l'être humain s'est toujours programmé et reprogrammé au fil des millénaires, des temps immémoriaux. C'est toujours programmé et reprogrammé bien avant qu'on utilise les mêmes lois fondamentales de la psychologie humaine, qu'on en fasse des applications spécifiques qu'on appelle hypnose. Alors, non. Disons que l'hypnose n'a pas et absolument pas le monopole de la reprogrammation. Huitième mythe. Je dois me reprogrammer à partir de mes souhaits. Ce qui veut dire, au final, que, je le répète, le huitième mythe, je dois me reprogrammer à partir de mes souhaits. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que je souhaite? Et je conscientise ce que je souhaite et j'en fais. Je fais tout ce qu'il faut ensuite pour faire en sorte que ça devienne un programme très profond en moi et que je me dirige corps et âme vers ça. Wow! Alors, ça me semble être quelque chose qui peut se faire, mais qui extrêmement souvent conduit sur le chemin de ce que nous voulons, mais qui est différent de ce dont nous avons profondément, spirituellement, besoin, puisque cela s'élabore à partir de ce que nous avons dans notre mental conscient. Ce qui découle donc de croyances spécifiques qui ont été plus ou moins, souvent très peu, regardées en pleine conscience. Alors, ça amène, disons, une amplification de ce qui nous coupe, au final, de qui nous sommes vraiment profondément. Neuvième mythe, c'est le mental qui est le programmeur. Ow! OK. Ici, il y a des nuances à apporter parce que il nous faut absolument que lorsqu'on envisage notre propre reprogrammation, que notre mental soit présent dans le processus, participe au processus et, d'un certain sens, participe à la programmation des programmes. Et ce qui est particulier, ce qui nous amène plusieurs besoin donc de clarification ou de nuance concernant le mental, c'est que le mental peut être programmeur et est programmé. OK. Alors, il y a tout plein de facettes à notre mental. Et si on n'est pas vigilant et on laisse notre mental qui veut prendre le contrôle de la machine, aller de l'avant, il va vouloir, oui, s'ériger au niveau du programmeur. Donc, ce qui veut dire, au final, qu'il y a certains programmes du mental qui sont plus fondamentaux, qui vont s'ériger au niveau de programmeur et programmer d'autres programmes dans le mental. Ça devient un peu complexe, la chose. Par contre, dans mon expérience, lorsqu'on retrouve le chemin vers notre essence fondamentale. Le mental conserve ses capacités et son action aussi de programmeur, mais devient ce qu'on pourrait classer, devient comme le sous-programmeur ou l'adjoint programmeur qui implante, justement, donc, dans le mental, encore une fois, des programmes qui proviennent d'une conscience qui dépasse le pur cadre du mental. Le mental devient, lorsqu'il y a ce pont de conscience qui est retrouvé entre notre essence profonde et le mental devient l'adjoint programmeur qui reçoit les consignes, les directives, les croyances profondes. Il les reçoit d'une source qui le dépasse. Et ensuite, il les implante de manière correspondante dans le mental. Alors, il y a des nuances là-dedans, mais de là à dire que c'est le mental qui est le programmeur avec un grand P, personnellement, ce n'est pas la vision à laquelle je suis parvenu dans mon chemin de vie. Donc, ce que j'enseigne ne conduit pas vers ça. Ceci était le 9e mythe. Et 10e mythe, si je ne décide pas, donc, mentalement de ma programmation, rien ne va se produire. Alors, c'est un peu une extension du 8e mythe qui dit « je dois me reprogrammer à partir de mes souhaits hein. ». Ici, le 10e mythe, c'est « si je ne décide pas mentalement de ma programmation, rien ne va se produire ». Et ça, c'est un mythe, parce que lorsqu'on libère tous nos souhaits de nous programmer de telle et de telle ou de telle ou de telle manière, lorsqu'on a le courage de regarder nos programmations en face et de procéder à des libérations sur notre souhait que s'effectue ainsi ou comme cela ou blablabla, les programmations, on se rend compte que, oh, on avait l'impression que la programmation était dépendante du fait de vouloir sa programmation. Tandis que, au-delà de cette volonté mentale, la programmation est auto-active parce qu'elle découle de la conscience. La programmation avec un grand P découle de l'unité, du fait de retrouver le lien intime avec notre nature profonde. Dans mon expérience, c'est ça. Et si je libère tout mon souhait d'avoir ou de ne pas avoir tel ou tel programme, j'entre en contact avec non plus des programmes, mais ce qui est pour moi dans ma vie, le programmeur. Ah, et ça, on va y venir un petit peu plus tard. Alors ça, c'était les 10 mythes et croyances populaires concernant la reprogrammation. En tout cas, ce qui me semblait être les 10 principales. Il peut y en avoir d'autres, il y en a tout plein, évidemment. Je me tourne maintenant vers Internet et je regarde. Oh là là, il y a tout plein de choses qui ont été écrites. Je remercie tous ceux qui ont écrit. Tous ceux qui ont écrit dans la téléconférence. OK. Alors que je trouve quelques affaires. La reprogrammation agit-elle au niveau de l'ADN? Dans mon expérience et dans l'expérience de plusieurs personnes, en l'occurrence plusieurs spécialistes, la réponse est oui, puisque nos pensées ont ou auraient des actions sur notre ADN. Et si j'en constate diverses expériences personnelles et expériences donc de plusieurs de mes clients ou de mes amis, etc., qui ont vécu des transformations qui n'étaient pas, supposées se produire selon les restrictions de l'ADN. L'ADN a une mobilité qu'on n'aurait pas cru il y a quelques années qu'il pouvait avoir. Et cette mobilité-là provient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, moi, je réponds, sans pouvoir prouver scientifiquement cela, je ne peux pas prouver ça, mais moi, j'ai tiré la conclusion, et je sais que plusieurs autres l'ont tiré aussi, que la reprogrammation agit au niveau de l'ADN. Alors que chacun fasse son... tire sa propre conclusion de cela. Autre question. Pour reprogrammer, avant ne faut-il pas déprogrammer? Comment faut-il alors déprogrammer? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, pour reprogrammer, il ne faut pas nécessairement déprogrammer. Parce qu'on peut avoir une foule de programmes de merde et puis en rajouter plein par-dessus, par exemple. Okay? Alors, ici, il n'y a pas eu vraiment de déprogrammation. Il y a eu juste ajout de programmes supplémentaires ou il y a eu ajout d'un nouveau programme encore plus puissant qui supplante et domine les autres programmes. Okay? Alors ici, on n'a pas parlé de déprogrammer quoi que ce soit. Par contre, dans les deux exemples que je viens de donner, ce n'est pas un chemin qui conduit vers plus de reconnaissance de soi. c'est la manière de s'éloigner de qui on est vraiment en enfouissant cela sous diverses couches de programmes. Lorsqu'on veut que se rétablisse, non pas uniquement juste une nouvelle et plus puissante et plus performante programmation, mais lorsqu'on veut que s'effectue où on veut retrouver le chemin vers la programmation naturelle qui découle de notre essence profonde, oui, d'un sens, et oui, il faut déprogrammer. Et là, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut déprogrammer? Bien, déprogrammer, c'est au final contacter une croyance et la libérer. La prendre et cesser de la retenir. La prendre et la laisser se dissiper, la laisser s'en aller, la laisser s'évaporer, la laisser s'en aller au loin. Se permettre en conscience de prendre de la distance par rapport à elle, ouvrir sa conscience à autre chose que cette croyance par rapport à quelque chose de spécifique. Lorsque je fais ça, devine quoi? Par rapport à cela, je suis en train de retrouver le contact avec une programmation d'autant plus naturelle, d'autant plus saine, d'autant plus auto-active, parce que je libère une couche. Et je ne peux pas ne pas avoir de programme. J'aurai toujours des programmes. La question qui se pose, c'est, aurais-je des programmes qui ont été programmés par des conclusions erronées, donc par mon mental, ou aurais-je d'autant plus des programmes qui proviennent d'une conscience qui se situe au-delà de l'espace et du temps, donc d'un contact avec qui je suis profondément, avec le réel programmeur des programmes. Et si on veut se déprogrammer, il faut avoir le courage de regarder en face ce qui se présente à nous et de procéder à la libération de cela. C'est tout. C'est tout. Autre question. Comment me libérer de toutes mes douleurs et retrouver enfin la sérénité et le calme? Bon, je ne peux pas répondre à ça. Comment te libérer de toutes tes douleurs et retrouver la sérénité et le calme? Parce que les détails dont tu as besoin pour cheminer là-dedans, c'est les détails qui se trouvent à l'intérieur de toi. Si tu vas réviser les informations que j'ai déjà données sur blog.pierre-étienne-bourget.com/libération-authentique, donc blog.pierre-étienne-bourget.com/libération-authentique, ben voilà, c'est aussi loin que je peux pousser le détail, en tout cas avec cette information spécifique concernant ce que tu dois faire. Parce que le reste, c'est des informations qui sont non applicables dans ta vie. parce que tu te dois donc de laisser émerger ce qui a besoin donc d'être conscientisé en dedans de toi et de procéder à des libérations spécifiques. Et au-delà de cela, tu as besoin de continuer à le faire. Cela donne, et dans mon expérience, oui, lorsque je libère des tensions, des perturbations, des résistances, des fausses croyances, ou juste des pensées récurrentes, cela donne de la sérénité et du calme. Et la sérénité et le calme, ça se répercute aussi dans le corps, et ça a un effet bénéfique sur le corps, parce qu'il y a les composés chimiques que le corps envoie, donc, dans son corps, sont plus agréables. OK. Une dernière question avant que je continue. En tant qu'enfant, j'ai été victime de rituels avec des techniques de contrôle de la conscience. Comment puis-je changer cela? Bon. Bien qu'il pourrait y avoir certains ajustements à faire, dépendamment des techniques qui ont été utilisées, c'est le même chemin. C'est le même chemin. Il faut s'assurer d'y aller bien doucement et d'avancer un tout petit pas et d'accueillir ce qui monte en soi. Dès qu'il y a une micro-mini-tension qui s'éveille par rapport aux événements de programmation qui ont été vécus, il ne faut pas aller plus loin. Procéder à des libérations là-dessus jusqu'à ce qu'on se sente bien avec ce mini-élément qu'on vient d'accueillir. Ensuite, il faut, exemple, si on travaille sur une scène de programmation spécifique, une scène traumatisante spécifique, avancer juste un petit peu plus dans la scène, mais dès qu'il y a une autre tension qui s'éveille, mini-tension qui s'éveille, on ne va pas plus loin, on procède à des libérations, on accueille donc ce qui monte en conscience thérapeutique, on ne sort pas de la conscience thérapeutique, ce qui veut dire réviser ce qu'est la conscience thérapeutique si ce n'est pas clair pour toi. J'en ai parlé dans les vidéos qui sont sur blog.pierre-étienne-bourget.com/libération-authentique. Hein? Cet état simultané de bonté, franchise et spontanéité. En demeurant en conscience thérapeutique, on accueille encore une fois ce qui veut monter, mais oups, on s'arrête là où il y a de la tension, parce que si on va trop loin dans des scènes traumatisantes comme ça, on va juste être submergé, on ne saura plus par quel bout prendre la chose et on se complique le tout. On peut même donc se rajouter des tensions psychologiques. Il faut y aller bien doucement. L'objectif, c'est procéder à des libérations aussi petites soient-elles. Et il y a des choses qui probablement ont été occultées dans pareil rituel. C'est normal parce que c'est hautement traumatisant. Et ils vont ressurgir. Mais uniquement si les petites mini-tensions ont été honorées, accueillies, libérées. Et à force de faire cela, les images, sons, sensations, émotions vont s'approfondir. Tu vas pouvoir retrouver le contact au moment opportun avec ce qui se doit d'être conscientisé. Et tu vas pouvoir alors être en mesure de libérer ça. Parce que tu vas avoir des précédents de libération. Parce que ton mental va collaborer aux libérations. Parce que ton mental va appeler les libérations. Parce que ton mental va se souvenir qu'il peut libérer, parce qu'il a déjà libéré. Si tu vas trop vite, tu vas arriver à un point où ton mental te dit qu'il ne peut pas libérer telle ou telle chose, et puis là, tu vas être pris avec une tension. Alors, très, très, très doucement, en faisant juste ça, tu vas être complètement surpris. Demeure en état de conscience thérapeutique, hein, bonté, spontanéité, franchise, de la quantité d'informations inconscientes qui vont retransiger vers le conscient. Et que alors tu vas pouvoir regarder en face et que tu vas pouvoir libérer. Donc, tu ne libéreras pas le souvenir comme tel, mais tu vas libérer la charge émotive, la charge énergétique qui est reliée au souvenir. de sorte que ils vont cesser de te dominer dans l'inconscient, mais ne t'oppresseront plus dans le conscient, et que tu vas pouvoir en plus les utiliser de manière bénéfique dans le conscient, parce que cela fait partie de ton expérience de vie. Et chaque expérience de vie, aussi souffrante puisse-t-elle être, peut être alchimisée, transformée et utilisée en positif. Alors, bonne chance, avance doucement, ok? Bon, continuons. Aha. Je remercie tous ceux qui écrivent encore, il y a une quantité impressionnante de questions qui m'ont été envoyées. Je vais toutes les lire, comme j'ai dit un peu plus tôt, par contre, je ne pourrai pas répondre à tout, sinon on va être encore là demain matin. ce qui pourrait presque être agréable, mais qui dépasse l'espace-temps que j'ai réservé dans ma solution de téléconférence. Bon, alors, je veux te partager ce qui me semble être le danger que 99+% des gens ignorent concernant la reprogrammation. Je vais te partager ça. Je vais te dire ce qui me semble être ce principal danger. Tu méditeras à ça. Tu y réfléchiras. Ce danger est le suivant. C'est le fait d'ériger en soi-même un programme ou une personne au niveau du programmeur. Parce que ça construit toujours une prison intérieure, aussi dorée puisse-t-elle être. Je vais te le répéter. C'est une phrase aux larges implications, à laquelle on peut méditer longtemps. Je peux te dire que ça fait longtemps que je médite à cette phrase et j'en découvre encore des nouveaux aspects. J'en découvre encore de nouvelles possibilités de rajustement, de vigilance, de prise de conscience. Cette phrase est la suivante. Ériger en soi-même un programme ou une personne au niveau du programmeur construit toujours une prison intérieure, aussi dorée puisse-t-elle être. Donc, ça veut dire que lorsque je prends un programme de mon mental, ce qui peut se révéler sous le nom de code de souhait, okay, je souhaite telle chose, vite, il faut que je programme telle affaire. Ah oui! Si ça ne se tient pas en relation avec notre essence profonde, ça crée un mur, une muraille, une séparation, une prison entre qui on est vraiment et ce qu'on croit être. Et ça crée du malheur. Au final, ça va créer une profonde, profonde insatisfaction, voire même une profonde détresse. Parce qu'il n'y a pas plus grande détresse que d'être coupé de soi-même. De savoir, en tout cas, il y a plusieurs formes de détresse, mais disons que c'en est une grande, là. De savoir qu'on mène une vie qui ne correspond pas à qui on est vraiment. Ou qu'on a l'impression de ne pas se connaître soi-même. Qu'on a l'impression de s'être créé une personnalité qui ne correspond pas à qui on est. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui sont allés super loin dans la programmation, qui ont réussi à atteindre des choses vraiment impressionnantes, matériellement parlant, et qui, dans tout ça, ont réalisé un extrême malheur intérieur, une extrême détresse intérieure. Parce que dans l'aboutissement de leur programme qui ne correspondent pas à qui ils sont, ils ont vécu une certaine forme d'extrême dissociation de qui ils sont. Ériger en soi-même un programme ou une personne au niveau du programmeur construit toujours une prison intérieure, aussi dorée puisse-t-elle être. Ou si c'est une personne qui est érigée en moi-même au niveau du programmeur, quelqu'un d'autre, que je choisisse moi-même cette personne-là ou que cette personne s'impose en moi-même, même si extérieurement les programmes de ce programmeur externe pourraient être ressentis comme avantageux, performants, satisfaisants. Aucune personne extérieure à moi-même qui fait entrer des programmes en dedans de moi vont être des programmes dans la lignée, dans la continuité de mon essence profonde, vont être les programmes naturels qui doivent être en moi. C'est des virus. Des virus. Qui me dépossèdent d'un sens de ce lien intime avec moi-même, de ce lien de conscience intime avec moi-même. Alors, extrême vigilance par rapport à ça. C'est ma mise en garde personnelle. Après ça, tu en fais évidemment ce que tu veux comme tu veux, selon ce que ça résonne en toi. C'est toi qui décides. Alors, c'est ça. Vigilance par rapport au fait que l'ego programme. Hein? L'ego, on ne peut pas se départir de lui. Il est donc plus ou moins sain. Dans la vision ou dans la définition que j'ai de l'ego, l'ego pour moi, c'est la vision que le mental a de lui-même. C'est ce qu'on appelle ego. Donc, l'image que j'ai de moi-même, mon estime de moi-même, mon ego, quoi. Je ne peux pas ne pas avoir d'ego, sinon j'aurais plus de perception de moi-même. Il peut y avoir des moments, des petits moments, où les perceptions de soi sont effacées. Ça peut se produire de diverses manières. Mais de manière continuelle, on a un ego, on a une perception de nous-mêmes. Si c'est uniquement cette perception de moi-même qui prend les commandes, okay, une perception de moi-même qui n'est pas vivifiée par mon essence profonde, oups, problème. Si c'est quelqu'un d'autre qui fout ses programmes en dedans de moi, oups, problème. Si j'y vais uniquement, je souhaite tel programme selon ce que j'ai dans mon conscient, ow, problème. Parce que il y a tellement de choses dont j'ai besoin ou qui m'attendent sur mon chemin naturel que je n'ai pas encore dans mon conscient. Bref, au final, je sais presque rien dans mon conscient. Alors, si je demande à ce conscient de prendre les commandes, oups, ça s'oppose au fait de laisser s'imposer naturellement la programmation. Évidemment, elle va venir dans le conscient. Évidemment. Mais c'est qu'elle va venir au lieu qu'on prenne ce qui est et qu'on l'amplifie en créant des programmes spécifiques. All right. Donc, ça, c'était le c'est tout simple, n'est-ce pas? C'est tout simple, mais aux ramifications, voulais-je dire, assez larges. Ériger en soi-même un programme ou une personne au niveau du programmeur construit toujours une prison intérieure, aussi dorée puisse-t-elle être. Et je prends quelques petites questions avant de continuer. Que cela peut-il m'apporter? Que cela peut-il m'apporter par un reconditionnement de soi? Donc, c'est un petit peu mal écrit, là, j'imagine que ça veut dire qu'est-ce que ça peut m'apporter, le fait donc de me reconditionner moi-même? OK, ben c'est assez évident, hein? Ça peut t'apporter n'importe quoi. Ça peut t'apporter n'importe quoi. Si c'est des programmes qui deviennent les programmeurs, si c'est quelqu'un d'autre qui met ses programmes en dedans de toi, si c'est mal fait, ça peut t'apporter bien de la souffrance, bien des aberrations, bien des incompréhensions, plein de choses. Voire même de la performance, une performance dans laquelle tu te sens malheureux, malheureuse. Si c'est bien fait, ben ça va t'apporter le fait donc d'être heureux, de te sentir accompli, de te sentir uni par rapport à toi-même, uni au reste du monde aussi. Ça peut t'offrir une performance extraordinaire. Si c'est bien fait, ça peut te permettre de te maintenir dans un état de présence, de conscience, d'éveil, de vigilance. Ça peut te donner une grande gratitude. Ça peut te permettre de contribuer activement et joyeusement au monde qui t'entoure. Ça peut te permettre d'aider. ça peut te permettre de discerner convenablement ce qui se présente à toi, en toi, chez les autres. Donc, si c'est bien fait, c'est, ça t'ouvre la porte à la réalisation de toi. OK? autre question. Comment reprogrammer sans le mental? Ah oui. Et c'est une question, comme je dis, il y a des nuances là-dedans. Si je n'ai pas de mental, hein, ou si mon mental est complètement détruit ou dysfonctionnel, hein, je suis dans un coma maintenu dans un par un respirateur artificiel et tout ça, bon, on imagine mon mental est, disons, très peu actif ou très peu conscient, dans une conscience diurne. On parlera pas vraiment d'une reprogrammation là, qui se transpose dans le mental conscient et va se transposer en action. Le mental est déconnecté. Le mental, on a besoin de lui. Il faut en faire notre ami. Il faut l'aimer, il faut le chérir, il faut avoir une bonne relation avec lui puisque on a besoin de lui. Puis il y a tout pour être notre meilleur ami, notre super ami, notre copain, notre copine. C'est merveilleux. On a besoin de lui. Il faut juste qu'il soit à sa place, c'est tout, quoi. Hein? Le mental doit participer à la reprogrammation puisqu'il reçoit une information qui dépasse, comment dire, son entendement mental, une information qu'il mentalise au final et qu'il retranspose en programme spécifique. Donc, il reçoit une information qui dépasse son propre cadre, une information qui provient donc d'au-delà des limites spatio-temporelles qui sont imparties au mental, qu'il mentalise et ensuite, il agit d'un certain sens comme programmeur lorsqu'il est bien disposé. Alors, il est au service de notre essence profonde, qui est une essence immatérielle. Hein? On a besoin d'un éveil mental, on a besoin d'une présence mentale, on a besoin d'une saine obéissance mentale. Donc, on ne peut pas vivre une reprogrammation sans mental, mais pour vivre une saine reprogrammation qui est donc auto-active, qui découle du lien de conscience qu'on tisse avec nous-mêmes, ça prend un mental bien disposé, c'est tout. C'est juste ça. Autre question. Comment me reprogrammer sans souhaiter ma reprogrammation? Je sais que j'ai glissé un petit mot là-dessus. Intéressante question. Il y a une nuance que je peux apporter par rapport à ça. Certes, et il nous faut souhaiter au sens de choisir ou être volontaire ou être proactif pour notre reprogrammation. Mais il faut que ce choix ou ce souhait soit plus... tourné vers la qualité. La qualité du lien qu'on veut retrouver avec notre essence profonde. Ensuite, le reste se met en place. Lorsque ça, c'est bien aligné, lorsque c'est le principal souhait, retrouver le contact de conscience avec qui je suis, au-delà de mes pensées, avant que je le mentalise. Si c'est ça que je souhaite, concernant ma reprogrammation, le reste va se mettre en place. Si par contre je souhaite et je cristallise déjà le tout dans une forme extérieure, avec un objectif précis, que je place le tout de manière spatio-temporelle, que je le décide sans que ça se place, eh bien là, je peux rencontrer plus de... je peux possiblement avoir une programmation qui est plus erronée, parce qu'elle est faite, elle est moins faite en connaissance de cause, qui est vraiment donc ce lien de conscience. En espérant que cela apporte la précision nécessaire. Bon. Je vais maintenant te partager ce qui, pour moi, représente les 7 clés secrètes de la reprogrammation saine et puissante. Les 7 clés secrètes de la reprogrammation saine et puissante. On va y aller, je te l'ai dit, je les relis, tu les écris si tu veux, tu y penses, et je t'offre certains compléments d'information autour de chaque point. Premier point, donc, de ces 7 clés secrètes de la reprogrammation saine et puissante. Pourquoi je dis secrète? Parce que, quand je regarde, quand je m'expose à la quantité quantité d'informations qui sont divulguées concernant la reprogrammation, extrêmement peu d'informations tiennent compte de ça, de ce qui correspond au sens que je donne à cette information. Un sens que, j'imagine, tu as déjà perçu, parce que ça a été ma manière depuis le début de traiter l'information, qui est la reprogrammation, c'est le fait de retrouver le lien avec qui on est vraiment. Et ça, c'est une saine et puissante reprogrammation. Alors, cette clé secrète, parce qu'elles sont peu connues et peu utilisées. 1. Le seul programmeur pouvant vraiment agir consciemment, naturellement et sainement, c'est notre essence ou notre être immatériel, peu importe comment on va le dire. Ici, je vais interchanger le terme essence, être, être immatériel, esprit, conscience supérieure. Il y a tout plein de mots que je mets pour que la plus grande quantité de gens en ait au moins un qui le rejoint, bien que je sois assez peu attaché à tel ou tel terme. Alors, je relis le point 1. Le seul programmeur pouvant vraiment agir consciemment, naturellement et sainement, c'est notre essence ou notre être immatériel. Point 1. Si ça, c'est pas reconnu dans notre expérience, les autres points subséquents vont probablement ne pas trouver de suite logique. Par contre, si ce premier point devient évident lorsque tu y penses, lorsque tu réfléchis à ça, lorsque tu regardes ton expérience et tu te dis « Ouais, c'est vrai, à partir du moment où j'ai eu telle prise de conscience, où j'ai contacté telle force qui était en dedans de moi et que je l'ai acceptée, que je l'ai laissé se répandre en dedans de moi, que je lui ai offert des canaux de manifestation, ah oui, ça a mis en place les programmes extraordinaires qui m'ont toujours bien servi et blablabla. Si le point 1 résonne en toi, allons maintenant au point 2. Le point 2, c'est l'être profond ne peut pas s'empêcher de programmer. L'être profond, l'être ou l'esprit ou l'essence profonde, ne peut pas s'empêcher de programmer. C'est le programmeur. Dès qu'on lui donne le lien de conscience avec le mental, ou autrement dit, dès qu'on dégage le chemin pour que son irradiation, sa présence, boum, contacte, se manifeste jusque dans le mental, notre être, c'est qui on est vraiment, prend le contrôle naturel, prend la maîtrise de plus en plus de programmes dans notre mental. Et le plus on chemine à contacter notre essence profonde, le plus les programmes auto-activement deviennent les programmes de notre être. Et c'est auto-actif. Donc, le deuxième clé, l'être ne peut pas s'empêcher de programmer. Ça se fait tout seul. Et je sais que c'est très déstabilisant que je le dise pour plusieurs personnes qui ont toujours cru qu'ils devaient tout choisir, leur programme, contrôler tel programme, non, plus tel programme, non, moins tel programme. Et j'arrive et je leur dis, non. La programmation auto-active, saine, naturelle, elle se fait toute seule. OK. Troisième clé. Le dégagement de l'être par la libération des attachements et des aversions est l'ultime reprogrammation auto-active, naturelle et bénéfique. Je vais le relire. En même temps que je le relis, tu laisses simplement l'information contacter ta propre expérience. Donc, troisième clé, le dégagement de l'être, le fait de dégager, retirer donc les ce qui obstrue. Le dégagement de l'être par la libération des attachements et des aversions est l'ultime reprogrammation auto-active, naturelle et bénéfique. Quatrième clé. La naturelle programmation de l'être. Donc, quatrième clé. La naturelle programmation de l'être est toujours meilleure que ce qui est imaginé ou souhaité par le mental. La naturelle programmation de l'être, donc l'être qui retrouve sa maîtrise naturelle sur l'encéphale qui est son outil, cette naturelle programmation de l'être est toujours meilleure que ce qui est imaginé ou souhaité par le mental. Mais le mental va presque toujours nous dire, et là c'est moi qui extrapole, va presque toujours nous dire que sa programmation, à lui, est meilleure, est plus performante, est plus à propos qu'une programmation qui proviendrait de l'être, qui serait décousue, qui serait hors propos, qui serait inapplicable, qui serait simplement idéaliste, mais non transposable dans la matière. Le mental va toujours dénigrer, tant et aussi longtemps qu'il veut conserver son contrôle, va toujours dénigrer une programmation naturelle qui proviendrait de notre être profond. C'est comme ça qu'il maintient son emprise. Et c'est comme ça qu'on perpétue tout plein de conneries. Bon, alors, point 4, la naturelle programmation de l'être est toujours meilleure que ce qui est imaginé ou souhaité par le mental. C'est meilleur. C'est plus à propos. C'est plus puissant. Il y a une guidance qui est dedans. Il y a une précision. Il y a une conscience qui dépasse la minuscule conscience des éléments isolés desquels tient compte le mental. Ah! Il y a une guidance supérieure qui est là-dedans. La guidance, la naturelle programmation de l'être prend en compte une qui sont incontournables, mais qui pourtant ne sont accessibles qu'à l'extérieur des limites spatio-temporelles. Et oui, souvenons-nous que notre mental ne sait presque rien de rien. C'est complètement obtus. C'est un magnifique outil. Et par rapport à l'intégralité des informations qu'on doit prendre en compte, c'est un peu ridicule. Hein? Et ce qu'on imagine ou ce qu'on souhaite dans notre mental, c'est toujours rétroactif. C'est toujours une amplification, un nouvel amalgame ou une distorsion ou un affaiblissement d'un cumul d'éléments isolés qu'on a ramassés dans notre passé. Qu'on a amassé dans notre passé, disais-je. Ça ne peut jamais prendre en compte des informations nouvelles. L'imagination du mental est rétroactive. Même si on projette en faire quelque chose de nouveau, c'est simplement un nouvel amalgame d'éléments isolés qu'on a déjà dedans de nous. Donc, c'est très limité. Très limité et très impotent. Concernant le fait de soutenir notre évolution intérieure. Ah! Cinquième clé. Le processus de reprogrammation est constant et se renforce par le maintien en éveil, par la vigilance, et par les libérations successives et cumulatives. Je vais répéter. Cinquième clé. Le processus de reprogrammation est constant et se renforce par le maintien en éveil, par la vigilance, et par les libérations successives et cumulative. C'est pas quelque chose qu'on va faire et qu'on... Allez, ça y est, c'est fini. Je me débarrasse de ça, c'est cané. Une fois pour toutes, ah, j'ai trouvé la bonne et la naturelle et profonde, définitive programmation. Non! C'est un lien de conscience qui se conscientise, qui se renforce, qui se vivifie, qui se maintient effectif dans le mouvement, dans l'éveil, dans la vigilance. Et comme il y a toujours une foule de nouvelles informations, de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, de nouveaux événements, de nouvelles conclusions qui arrivent dans notre mental, eh bien, il faut demeurer en état de fluidité, en état de libération. Sinon, rapidement, on va obstruer le lien. Boum, on va vivre un événement choc et on va s'y attacher, on va le retenir, on va le nourrir. Et au final, on ne vivra plus réellement dans l'instant présent, en conscience de qui on est et de ce qui nous entoure vraiment. On va devenir plongé dans nos pensées, dans nos émotions. On va continuer à vivre ce qui appartient à un autre moment. On va obscurcir le lien. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis. C'est quelque chose qui se maintient vivant lorsqu'on demeure vivant. C'était la cinquième clé. Sixième clé. La reprogrammation fondamentale ou consciente est liée à la conscience de notre vision de vie. La reprogrammation fondamentale est liée à la conscience de notre vision de vie. Au final, ce qui va vraiment s'imposer dans ma vie, c'est la conscience que j'ai de qui je suis. La conscience que j'ai, que j'obtiens et qui se clarifie, qui se raffine et qui se renforce de ma vision de vie, de ma mission de vie, du pourquoi je suis ici, de quelles sont mes forces, de quelle est la direction qui est donnée, de qu'est-ce que je dois réellement accomplir avant que je ne meure, avant que mon présent périple terrestre arrive à une fin. Quelle est la direction qui est donnée à ça? Quelle est la formation spécifique ou formation spirituelle que j'ai eue, que je suis appelé à manifester ici? Quelle est ma vision de vie? Qu'est-ce que je dois accomplir? Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je dois pour pouvoir maintenir une conscience, satisfaite de mon périple terrestre? Qu'est-ce que je dois avoir exprimé? De quelle manière est-ce que je dois avoir contribué? Comment est-ce que je dois avoir amené mon monde plus loin? Quel legs est-ce qui m'a été confié, que je dois confier à nouveau dans le monde dans lequel j'évolue? La vision de vie. Ma reprogrammation fondamentale est liée à la conscience que j'ai de ma vision de vie. Si je n'ai pas de vision, je péris. Ma vision, c'est mon carburant. La vision, c'est ce qui m'embrase. La vision, c'est ce qui me donne une conscience. Mon focus doit être de conserver ma vision, de renforcer ma vision, de clarifier ma vision. Si j'ai pas de vision, je suis comme une coquille vide. Si j'ai pas de vision, je dois obtenir une vision, je dois me mobiliser pour avoir ma vision. Si j'ai pas de vision, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de canalisation énergétique. Il n'y a pas de matérialisation spécifique. Mon énergie n'est pas orientée. Et pour que j'y parvienne ou que je continue à y parvenir, il faut que je dirige mes prises de conscience vers le fait de dégager les couches d'inconscience qui me séparent de cette reconnaissance. Il faut que je choisisse constamment de dégager ce qui voudrait obscurcir ma vision de vie, troubler ma vision de vie, perturber ma vision de vie, ou cristalliser ma vision de vie. Parce qu'elle est vivante, elle est mouvante. Au fur et à mesure que je passe à l'action, que je développe ma conscience, j'obtiens un nouveau niveau de reconnaissance et ma vision de vie parvient à un autre niveau. Et ça, c'est la programmation la plus fondamentale. Si je n'ai pas déjà obtenu ça, il faut que je me mobilise pour, à tous les jours, conscientiser ou me maintenir dans la lignée de cette vision de vie, préciser cette vision de vie. Et septième clé secrète de la reprogrammation saine et puissante, notre vision de vie nous devient évidente lorsqu'on est prêt à se vouer à la réaliser. Notre vision de vie nous devient évidente lorsqu'on est prêt ou lorsqu'on est prête à se vouer à la réaliser. Notre mission de vie nous devient évidente lorsqu'on est prêt ou prête à se vouer à la réaliser. On a besoin d'une certaine forme de... Est-ce que je vais dire de courage? Parce que c'est pas vraiment de courage comme tel. Parce que, en tout cas, bref, il y a divers éléments qui doivent être en place, qui font en sorte que on est assez sérieux dans le fait de réaliser, de matérialiser notre vision de vie. C'est tellement important pour nous qu'on est prêt à supporter certains désagréments, peut-être. Des petits désagréments qui, au final, ne sont pas grand-chose par rapport à cette satisfaction profonde, qui n'est pas une satisfaction comme telle de l'ego, qui est une satisfaction profonde du fait de marcher sur notre chemin de vie. Il faut que ce soit sérieux. On aura probablement à supporter certaines prises de conscience qui peuvent être difficiles à supporter au départ, lorsqu'on a besoin de s'ajuster à divers éléments. On aura besoin probablement de passer à l'action de diverses manières, des manières particulières qui ne correspondent pas à ce qui est habituellement entrevu. Partant du fait que l'extrême majorité des gens marchent leur chemin de vie sur le pilote automatique n'étant pas conscients de leur vision, hein, de leur vision de vie, si on veut le dire comme ça, terme large duquel sera compris une définition plus profonde. Lorsqu'on est conscient de notre vision de vie, évidemment, on passe à l'action d'une manière particulière, spéciale, qui peut éveiller chez autrui diverses choses, qui peut parfois bouleverser. Mais c'est une manière qui est au final saine parce qu'elle est bien disposée. Une manière qui peut déranger, qui peut éveiller chez autrui diverses formes de résistance, qui peuvent nous revenir, hein, qui peuvent revenir vers nous. Il faut être prêt à ça. Si on n'est pas prêt, si notre mental a peur de ça, il va faire tout ce qu'il peut pour maintenir en place des barrières de conscience spécifiques qui vont empêcher les prises de conscience importantes et fondamentales correspondant à notre vision de vie. Parce que le mental va sous-entendre que de tels éléments viendraient bouleverser son équilibre psychologique. Alors, à deux mots, il choisit le moindre, choisit la souffrance douce du fait donc de ne pas être conscient de cette vision de vie. Ce qui est en fait une profonde souffrance, parce que ça nous maintient dans le fait de vivre une vie qui est étrangère à nous-mêmes. Mais si le mental a l'impression que la perturbation serait plus grande si on devait supporter les éléments correspondant à notre vision de vie, il va choisir de se maintenir dans l'ignorance par rapport à la vision de vie, parce que, à deux mots, il va choisir le moindre. Alors, septième clé, notre vision de vie nous devient évidente lorsqu'on est prêt à se vouer à la réaliser. Important point. Comme tu peux voir, il y a une succession logique entre ces divers points qui nous conduit à divers niveaux de reconnaissance. C'était les sept clés secrètes de la reprogrammation saine et puissante. que je me tourne sur vers l'Internet. Bon. Alors, je vais prendre peut-être une ou deux questions. En substance, la question pourrait être: comment permettre à notre essence profonde de reprendre le contrôle de notre mental? Bon. J'en ai parlé quelques fois. Je pense que c'est, mon propos est tourné autour de ça. Ça peut être intéressant que la question soit posée juste pour que j'en fasse la révision, mais lorsqu'on se plonge en état de conscience thérapeutique et que par rapport à quelque chose de spécifique, peut-être de quelque chose, peut-être même par rapport à quelque chose de profond, on tourne notre attention vers ça, donc on oriente notre point d'attention. On est en conscience thérapeutique, donc en état simultané de bonté, spontanéité et franchise. On va accueillir des éléments. Et si on laisse simplement monter sans dire ceci est bon, cela n'est pas bon, blablabla, on va être conduit. Il y a une guidance supérieure qui va s'infiltrer dans le fait que, ah, étrangement, on vient à contacter telle et telle chose. On n'en voit pas nécessairement la connexion profonde. Ensuite, on prend cette chose, on l'approfondit un peu, on peut voir qu'est-ce qu'il y a derrière elle, quelles sont les croyances spécifiques qui se cachent derrière elle, derrière ça, ou qui soutient cela, et on procède à une libération. On procède ainsi à un cumul de libération, qui est le fait, comme je l'ai dit plus tôt, donc de laisser aller, de cesser de retenir, de se permettre de prendre de la distance par rapport à ça, de se permettre d'élever notre conscience par rapport à ça, de voir cela de manière différente, laisser se dissiper, laisser se dissoudre telle et telle information, juste pour maintenant. Et lorsqu'on chemine dans le fait de faire des libérations comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on libère des couches, des perturbations, on libère des divers niveaux d'obscurcissement qui nous séparent en fait de qui on est vraiment. Parce que jusqu'alors, on était en contact uniquement à travers notre mental, avec des personnalités de notre mental. On se dit, qui parle, qui dit ci, qui dit ça. On est contraint dans les personnalités du mental. On se dit, je suis, mais c'est juste le mental qui parle. C'est les personnalités du mental indépendantes qui sont un peu laissées à elles-mêmes. Et il y a cette réalité parallèle qui est occulté. Notre être profond est comme emprisonné, ne trouve pas de chemin pour être conscientisé. Les couches du mental sont trop fortes. Mais lorsqu'on libère des éléments, simplement ce qui veut se présenter ici et maintenant, je libère ça, OK. Et je libère ça, OK. Et il y a ce lien qui auto-activement devient plus conscient, plus présent, plus vif, plus permanent. Et par le simple fait que la conscience s'établisse entre le mental et ce qu'il y a de l'autre côté du mental, cette essence profonde qui naturellement, logiquement, domine le mental, qui est son outil, reprend le contrôle, et après ça, on regarde le tout rétroactivement et on se dit, comment est-ce que j'ai fait pour vivre coupé de ça? J'étais où toutes ces années-là? Où était cette conscience supérieure qui maintenant me semble habiter dans mon mental, être ici, être là? Où est-ce que c'était? Comment est-ce que j'étais coupé de ça? Ah oui, il y avait trop de couches qui nous séparaient de ça. Une fois qu'on a retrouvé et qu'on continue à retrouver ce lien-là, c'est simplement présent. On se demande où c'était avant, quoi. Et ça nous semble plus drôle. Et on continue évidemment de cheminer avec ça. Alors, bon, donc, cette question reprenait des propos qui pouvaient être bons auxquels il pouvait être bon de donner certains angles différents. Autre question intéressante. Qui veut dire à peu près ceci? Bref, comment est-ce que la programmation naturelle pourrait être meilleure que nos rêves les plus grands? Ah oui, je le sais. On a cet attachement à se dire, ceci c'est mon souhait. Je peux pas libérer ça. Je vais perdre ça. Il y a deux possibilités. Hein? C'est possible que notre souhait, et c'est aussi souvent le cas, hein? Il y a une relation entre ce qu'on souhaite et ce que notre être profond souhaite. Souvent, il y a une continuité. Le plus le mental s'est mis dans la partie, le plus il peut y avoir des perturbations dans la représentation ou dans les attachements qu'on se fait de la version finale. Okay? Mais souvent, il y a un lien qui est actif entre nos souhaits, ce qu'on se dit consciemment souhaiter, et ce que intérieurement on souhaite vraiment. Donc, j'invite chaque personne à ne pas avoir peur à faire des libérations par rapport à ça. Et je sais que ça fait peur, parce qu'on est super attaché à nos souhaits. Mais lorsqu'on fait des libérations, on ne peut pas se libérer de qui on est vraiment, de ce qu'on souhaite profondément. Alors, il y a trois choses qui se produisent lorsqu'on procède à une libération sur quelque chose. Si cela n'appartenait qu'à notre mental, n'appartient pas à qui on est profondément, cela se dissipe et cela ne revient pas avec une force suffisante pour qu'on considère le tout comme nous appartenant vraiment. C'est parce que c'était comme erroné dans notre vie, ça ne nous appartenait pas à vraiment, ça appartenait à... c'était venu de l'extérieur au final. On s'était dit qu'on voulait ça, mais non. Alors, ça se dissipe et c'est une super bonne chose parce que ça laisse de la place à ce qui nous correspond d'autant plus précisément. Si ça nous appartient un peu, mais on a mis des perturbations dedans, eh bien, les aspects de perturbation se dissipent ou sont délaissés à travers les libérations et ce qui nous appartient vraiment se clarifie, se renforce, devient plus présent, devient même comme omniprésent. Et là, la loi d'attraction, etc., ça devient vraiment puissant parce que ça nous habite, ça vit en dedans de nous, ça irradie à travers nous. On est toujours en train de vibrer là-dedans, d'irradier à travers ça. Ça devient super puissant. La troisième possibilité, c'est que oui, cette chose, ce souhait, est un souhait profond en moi. Alors, quand je procède à des libérations, ça devient donc uniquement plus présent, plus clair, ça se renforce, ça se précise, ça s'actualise. Au final, on n'a pas besoin d'avoir peur de faire des libérations, mais ça fait peur à notre mental. Alors, dans ce sens-là, la question était à peu près en substance, comment est-ce que la programmation naturelle pourrait être meilleure que nos rêves les plus grands? La programmation naturelle amène même nos rêves les plus grands, lorsqu'on considère en fait que la programmation naturelle, c'est le fait de retrouver le contact avec notre essence, notre conscience profonde. Notre essence, notre conscience profonde amène même nos rêves les plus grands à un autre niveau. Donne plus de conscience, plus de précision, rajuste le tout, permet une implication plus profonde, plus judicieuse, plus de force d'action, etc. Il y a toujours un gain. Et voilà, j'encourage chaque personne à prendre ses rêves les plus fous et à procéder à des libérations là-dessus. Et il y a une paix qui s'installe. C'est comme si, lorsqu'on fait ça, on vit nos souhaits profonds avec un calme, avec une certitude. On s'est départi de cette angoisse de le perdre, de perdre notre rêve, de perdre l'élan vers notre rêve. On s'est départi de ça parce qu'on a trouvé plus d'unité avec ça. Et alors, ça nous suit d'autant plus partout. Il y a cette paix profonde qui vient dans tout ça. Il y a cette certitude qui vient. Il y a cette confiance, il y a cette conscience. Et ça amène, donc même nos rêves les plus grands à un autre niveau. OK. Alors, j'ai dit plusieurs informations dans cette heure et demie concernant la reprogrammation. Hein. Je l'avais dit, je l'avais annoncé. Ton temps est important, mon temps est important. Si tu viens à une téléconférence que je donne, ton temps est honoré. Je veux dire, tu vas avoir de l'information, tu vas avoir plein de possibilités de te confronter à de nouvelles informations. Okay? Et peut-être que tu te dis, Wow! Il y avait vraiment de l'info. Je vais faire le nécessaire pour mettre la présente téléconférence en rediffusion. Et tu vas donc pouvoir reprendre, dès que la présente téléconférence va être terminée, tu vas pouvoir reprendre les informations que j'ai données en te rendant justement sur blog.pierre-étienne-bourget.com/libération-authentique en un seul mot. Et tu vas retrouver la page que je regarde encore, les secrets de la reprogrammation de soi. Tu as trouvé cette page-là, tu vas pouvoir donc réécouter la présente téléconférence. Si tu te dis, oh, ça me plaît, je veux éveiller ce lien, je veux retrouver ce lien, je veux rapidement retrouver le contact avec mon essence profonde, comment est-ce que tu pourrais m'aider rapidement à monter de niveau, à libérer les couches qui m'oppressent, à tisser ce lien de conscience avec qui je suis vraiment, à reconnaître, à conscientiser ma vision de vie, hein, à embraser ce qui m'habite vraiment, à ouvrir le chemin à ce que je me sente bien de réaliser ça, que j'attire des événements à moi qui me permettent de réaliser ça, que je le fasse en puissance et en paix en même temps. Si ça t'appelle, il y a un chemin qui s'ouvre à toi maintenant dans ce sens-là. Et brièvement, je te dis que concernant la méthode de libération authentique, présentement, je prends des inscriptions. Cela n'a pas eu cours depuis 14 mois parce que donc j'y vais par petits groupes spécifiques. Présentement, tu as la possibilité de t'inscrire à la méthode de libération authentique qui est une approche super puissante qui amène les libérations complètement à un autre niveau. À un niveau probablement que tu n'imagines même pas. On va faire un cumul de libération avec des approches spécifiques que j'enseigne uniquement dans la méthode de libération authentique. Parce que oui, je donne une assez bonne quantité d'informations grande échelle, gratuitement, etc. Mais il y a ces informations spécifiques, ces informations de pointe que je garde spécifiquement pour ceux qui veulent donc investir dans leur chemin de confiance. J'ai dit de confiance, ouais, c'est ça, c'est de conscience que je voulais dire. Donc, pour ceux qui investissent en eux, qui vont prendre leur temps et prendre leur argent pour avoir des informations de pointe. Alors, dans la méthode de libération authentique, il y a tout plein d'autres approches de conscience qui vont te permettre, et mon intention de la libération authentique, c'est ça, c'est d'offrir un outil spécifique ou plusieurs outils spécifiques pour chaque situation que tu rencontres en conscience, que tu rencontres matériellement, tu es équipé pour optimiser ton chemin de vie, peu importe ce qui se présente à toi. Tu es équipé pour faire une foule de prises de conscience rapidement. Tu es équipé pour contourner les blocages, les écueils, les problématiques qui peuvent se présenter à toi. Ça m'a pris une bonne dizaine d'années à développer ça depuis 2010, donc régulièrement, je dis régulièrement, c'est pas tout à fait régulièrement, mais occasionnellement, je vais prendre des inscriptions de ça. Et comme je le disais, ben voilà, parce que j'ai été pris dans l'élaboration de plein d'autres choses et que j'ai conservé un lien vraiment agréable avec les membres des anciennes éditions, j'ai pas pris de nouveaux membres depuis 14 mois. Alors, présentement, je t'offre cette possibilité. Si tu veux vraiment avoir une bonne description de ce qui est dans la méthode de libération authentique et ce qui t'est offert maintenant, tu peux te rendre justement sur le même endroit qui est blog.pierre-étienne-bourget.com/libération-authentique. Et la vidéo qui est sur la page d'accueil, c'est une description donc que j'ai faite spontanément de la méthode de libération authentique. Bon, écoute, moi, si je parle de la méthode de libération authentique, il faut que je sois vigilant parce que c'est facile pour moi d'en parler vraiment longtemps avec énergie, avec fougue. Alors, la vidéo en question, j'ai fait clic caméra et puis je suis parti pour une heure. Hein, alors. Mais si ça t'intéresse, je t'en donne en quelques minutes les grandes lignes de telle sorte que tu vas avoir en quelques minutes le contenu donc de cette vidéo qui est en ligne que tu pourras ou non réviser si tu veux aller plus loin. Mais dans tous les cas, tu vas avoir les informations. Tous les gens qui s'inscrivent à la méthode de libération authentique présentement deviennent des membres à vie. Ce qui veut dire que vont avoir l'intégralité de l'édition enrichie 2012, mais vont aussi avoir les nouveaux compléments d'information que je vais offrir dans le futur. Ils vont tout avoir. Tout ce qui appartient au développement futur de la méthode de libération authentique vont les avoir parce qu'ils vont devenir membres à vie. Donc, ce qui veut dire qu'en 2010, ceux qui se sont déjà inscrits ont eu les mises à jour de 2012 et ceux qui s'inscrivent en 2012 vont avoir les mises à jour de 2013, 2014, 2015 parce que c'est une méthode qui continue d'évoluer parce qu'il faut que ce soit comme ça, parce que j'évolue moi aussi, parce que les clients évoluent, parce que tout le monde évolue dans cette histoire et il faut constamment maintenir les informations à la fine pointe. Alors, c'est ce que je fais avec la méthode de libération authentique. Lorsque tu t'inscris, bien, tu vas recevoir sur 11 semaines l'information. Elle est en ligne. Tu vas pouvoir la télécharger lorsque tu veux. Hein, parce qu'il y a 10 semaines à la méthode de libération authentique, mais on commence avec une bonne grosse semaine d'introduction. Donc, ça te dure ces 11 semaines à travers lesquelles tu vas recevoir l'accès à des informations que tu vas pouvoir télécharger, que tu conserves sur ton ordinateur et tu t'y exposes à ton rythme. Il y a environ 50% des gens qui s'exposent au matériel en 10 ou 11 semaines, un autre 50% des gens qui s'y exposent à leur rythme plus lent que ça. Alors, à toutes les semaines, tu as une ou plusieurs vidéos qui vraiment donc, te permettent de rentrer dans les sujets spécifiques, de faire des expériences spécifiques, tes expériences à toi, d'ancrer le matériel, tu vas avoir une foule de pistes audio spécifiques qui permettent d'appliquer les approches de conscience particulières, donc dans ta vie, de faire tes prises de conscience, de cheminer aussi vite que tu veux avec ça. Tu vas avoir accès au téléchargement d'une téléconférence qui va pouvoir donc répondre à tes questions spécifiques, aux réponses spécifiques. Aux questions, voulais-je dire, spécifiques qui m'ont été donc posées par rapport à la semaine en question. Tu as accès à un forum privé des membres où tu peux échanger avec toute la communauté. Tu as la possibilité d'avoir un ou plusieurs partenaires d'études et je t'offre le support pour cela, qui sont donc des gens avec lesquels tu peux pratiquer, expérimenter les libérations. Une personne que tu peux aider, qui peut t'aider, donc avec qui tu peux cheminer. Tu vas avoir des musiques d'entraînement d'ondes cérébrales pour pouvoir procéder à des libérations avec ton cerveau qui fonctionne en ondes alpha, delta, theta ou delta. Tu vas avoir donc des réponses aux questions en PDF. Hey, ça dure comme ça 11 semaines. On va explorer des horizons assez exceptionnels. J'arrête là, tiens. J'arrête là. Si tu veux plus d'informations, tu vas en ligne simplement à que je regarde le lien encore. C'est quoi? C'est blog.pierre-etienne-bourget.com/authentique. Alors, possibilité d'inscription dure encore pour quelques jours. Après ça, je ferme les portes. Donc, comme je dis, le train est à la gare, les portes sont ouvertes, mais quand les portes se ferment et le train part, et voilà, c'est parti. Il y a des gens qui, la dernière fois, sont restés sur le quai, ont regardé le train passer. Et maintenant, je suis content de les voir s'inscrire. Ils ont quand même dû attendre 14 mois. Je ne sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais offrir d'autres inscriptions. C'est pas que je veux attendre 14 mois à chaque fois. C'est que ça se présente comme ça à moi. Et c'est ça qui est ça. Alors, si ça t'appelle, si ça t'interpelle, eh bien, je t'invite à aller de l'avant tout de suite. Entre dans ton expérience personnelle, rentre dans ton cœur, comme on dit, ressens si ça t'appelle, si tu te dis « Ah, il me semble que ça amènerait ma vie à un autre niveau. Il me semble que si je pouvais faire ce saut de conscience, si ça t'appelle intérieurement, je t'invite à aller de l'avant. Si ça t'appelle pas, ben viens pas, tu vas perdre ton temps, quoi. Ça sert à rien d'accumuler des informations que tu fiches dans ton ordinateur. Je veux des gens, donc, qui se sentent appelés par ça, qui veulent rapidement amener leur niveau de conscience et de fonctionnement à un autre niveau. Et évidemment, donc, j'ai toujours cette même garantie, ce qui fait que tu as 30 jours dans lesquels tu peux télécharger, conserver toute l'information, avoir tous les bénéfices des membres à vie. Si, à l'intérieur de 30 jours, tu n'es pas complètement ravi, satisfait, époustouflé, heureux, heureuse, tu nous envoies simplement un tout petit courriel et nous, on se fait un plaisir de te rembourser 100% tout rapidement et tu conserves tout. Parce que on a un plaisir incroyable avec nos clients. On veut que nos clients aient un plaisir avec nous. Et si tu n'es pas satisfait, bien nous, voilà, on veut avoir le plaisir de te rembourser. C'est aussi simple que ça. Alors, je te souhaite le meilleur. Va voir l'information en ligne. http://blog.pierre-etienne-bourget.com/libération-authentique. Et si ça t'appelle, ben, je t'invite à aller de l'avant rapidement. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur. J'espère que tu as fait donc de bonnes prises de conscience dans la présente téléconférence. Je remercie tous ceux qui écrivent encore des... des questions. Je salue tout le monde. J'envoie mes bonnes pensées à tous. Je vais tous vous lire, c'est sûr, après, donc, lorsque j'aurai raccroché. S'il y en a qui veulent encore écrire quelque chose, faites-le tout de suite parce que je vais bientôt clore la possibilité d'écrire. Lorsque je vais fermer la présente téléconférence, la possibilité d'écrire va être terminée. Alors, je vais peut-être, après le moment où je vais cesser de parler et remettre une petite musique, laisser 5 minutes, s'il y en a qui veulent encore écrire quelque chose, à gauche, dans l'onglet, je sais plus comment c'était écrit, là, l'onglet à gauche, « Submit your question for the event here ». Je vous laisse encore un petit 5 minutes, écrivez-moi ça, moi je vous lis tous, j'aime énormément vous lire, j'apprécie les échanges, l'enrichissement mutuel que ça apporte, ça m'apporte plein d'éléments intéressants. Alors, je t'envoie mes bonnes pensées, je te dis à bientôt, je te souhaite le meilleur, je te souhaite de retrouver rapidement ce lien avec qui tu es profondément et que s'établisse d'autant plus naturellement et puissamment cette naturelle programmation en toi. Alors, à bientôt. Bye bye.